bien attaqué, vous allez pouvoir garder le micro. Donc, où est-ce que vous pouvez nous faire donc la présentation des effets de la crise là aujourd'hui, notamment sur l'Afrique?
Merci. Merci beaucoup. Je vais en effet concentrer mes quelques remarques sur l'Afrique subsaharienne en regardant d'abord comment les différents pays africains se sont comportés dans cette crise. Ensuite, en essayant de rappeler que on parle de la crise, mais enfin, les pays d'Afrique subsaharienne sont en crise de mal développement depuis longtemps. Et donc, ça va mieux comme ça ? Et donc, il ne faudrait pas simplement mettre l'accent sur une vision de court terme liée aux effets de cette crise, mais essayer de relier ce qui est en train de se passer à une dynamique de long terme et des problématiques de long terme qui sont celles des pays africains. Et puis terminer, et ce sera le lien finalement avec la question que vous posez peut-être, sur le rôle de la communauté internationale et de l'aide au développement. Alors j'ai simplement commencé en regardant les chiffres tiré d'un rapport tout récent, fin octobre de cette année, du Fonds monétaire international sur l'Afrique. Et le Fonds monétaire international distingue quatre catégories de pays africains: des pays qui ont du pétrole, des pays qui ont des ressources naturelles autres que le pétrole, des ressources minières autres que le pétrole, des pays qui n'ont pas de ressources particulières mais qui sont côtiers, et des pays qui n'ont pas de ressources particulières et qui sont enclavés. Alors vous voyez qu'au total, et c'est la première ligne de ce tableau, il y a plusieurs choses qui apparaissent, qui sont intéressantes. La première, c'est que l'Afrique subsaharienne dans son ensemble a connu une période de croissance longue et assez forte, notamment par rapport aux critères que nous aurions dans nos propres pays, puisque comme vous le voyez, il y a en gros une moyenne de la croissance depuis le début des années 2000 qui est supérieure à 5%. Alors il faut tout de suite ajouter qu'il y a une croissance démographique forte. Mais malgré tout, ça traduit par un accroissement de ce qu'on appelle le revenu par habitant en moyenne dans ces différents pays. Et donc, une question immédiate qui se pose, est-ce que déjà, avant la crise, cela traduisait un nouveau régime de croissance plus rapide, ou est-ce que c'était simplement un moment passager de rattrapage par rapport à des mauvaises performances passées? Ce sont des questions qui, aujourd'hui, ne sont pas toujours posées explicitement et sur lesquelles on a encore assez peu d'éléments de réponse. Deuxième point qui apparaît très important, la chute, et ça je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est un peu l'objet de l'ensemble de ces journées, c'est la chute de 2009. Hein, vous voyez qu'on est passé de 6,9 en 2007, 5,5% de croissance en 2008, et 1,1 pour l'Afrique subsaharienne en 2009. Et puis la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'attend en ce moment à ce qu'il y ait une reprise en 2010. Et puis l'autre chose que je voulais mentionner, vous voyez que les expériences sont très très différentes entre les différents groupes de pays africains, et en particulier il y en a un qui, entre guillemets, ne s'en sort pas si mal, qui est la catégorie pays enclavés sans ressources. On va dire, alors c'est un peu curieux, sauf que comme la crise est internationale et elle porte sur les flux internationaux, moins vous avez de ressources, plus vous êtes enclavé, moins vous êtes dépendant. Et c'est quand même un peu une fausse bonne nouvelle. Sauf à pouvoir dire, l'avenir de la croissance africaine, c'est précisément le développement autocentré. Et là, encore une fois, on a quand même assez peu d'éléments qui nous permettent d'être confiants dans ce type de scénario. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui a pu faire dire à certains que les pauvres Africains étaient en quelque sorte protégés de l'Afrique, de la crise. Je pense qu'il ne faut pas peut-être aller jusque-là, et finalement, Akiko nous a montré que ce n'était pas tout à fait le cas. Mais on voit bien donc cette diversité d'expériences, et on voit finalement que l'insertion dans la mondialisation crée des vulnérabilités, et que donc l'un des problèmes de la gouvernance et de la gouvernance mondiale, c'est précisément de traiter ces vulnérabilités. Deuxième point important, comment est venue la crise dans les différents pays africains? Eh bien très clairement, alors sur ce graphique vous voyez ce qu'on appelle les contributions à la croissance, en distinguant l'évolution du commerce net, hein, des exportations nettes, donc exportations moins importations, en regardant la contribution des modifications de la demande intérieure des pays. Et vous voyez que depuis d'ailleurs 2005, hein, mais avec une accélération bien évidemment liée à la crise en 2007, 2008 et 2009, le commerce extérieur a freiné la croissance, et c'était très, très visible au moment de la crise. La demande intérieure a aussi suivi et a été pénalisée par le ralentissement, bien évidemment, Et puis on voit que en 2010 et 2011, on s'attend à ce qu'aussi bien le commerce extérieur que la demande interne de ces différents pays apportent des contributions positives à la croissance. Mais le commerce extérieur est donc un élément important de la réponse à la, de la, de la, de la, de les, des effets de cette crise sur les pays africains. Alors là, vous ne voyez peut-être pas beaucoup de choses, mais c'est en fait un graphique intéressant, toujours tiré de ce rapport du Fonds monétaire international, qui montre l'évolution des grands flux internationaux de ressources vers l'Afrique, suivant que l'on est dans l'une ou l'autre des catégories de pays que je mentionnais. Ce que l'on peut retenir de ces graphiques, d'abord, c'est le maintien, en effet, de l'aide au développement, mais on aurait pu espérer que cette aide au développement s'accroisse très sensiblement. En fait, dans aucun groupe des pays, sauf les États fragiles, alors on me dirait qu'il y en a beaucoup en Afrique, donc ça montre quand même que l'aide a réagi de façon satisfaisante pour ces pays-là. Mais dans l'ensemble, et c'est un peu mon métier, j'aurais préféré, moi, que l'on ait un effort encore plus significatif, qu'on dirait contracyclique, si vous voulez, de réponse à cette crise. On voit aussi ce que Akiko a dit tout à l'heure, c'est que les flux de remise des migrants, là où ces remises sont importantes, ont assez bien résisté à la crise, avec une légère baisse, mais c'est malgré tout des flux qui ont bien résisté. Et on voit que les flux d'investissement direct, notamment, et donc c'est-à-dire les investissements à logique industrielle dans les pays pauvres, ont été assez stables aussi, ont baissé, mais se sont révélés assez stables. Le véritable flux instable, et ce n'est pas une surprise, c'est ce qu'on appelle les flux de portefeuille, c'est ce qui est en vert sur ce graphique, donc les flux financiers et les flux à logique financière. Et donc là, c'est quelque chose que l'on savait et qui se vérifie bien évidemment sur ce graphique. Alors, ce qui a permis de limiter en partie l'impact de la crise, c'est un peu comme chez nous, il y a eu des réponses contracycliques, aussi bien nationales qu'internationales. En matière nationale, c'est très classique, c'est la réponse des politiques budgétaires et des politiques monétaires. Ces réponses ont été facilitées par l'ajustement qui a eu lieu dans les pays africains, au-delà de la dernière décennie d'ailleurs, qui se sont poursuivis dans les années 2000, et qui ont donné une marge de manœuvre, de réponse. Cette marge de manœuvre a été d'ailleurs validée et encouragée par le Fonds monétaire international. Ce n'est pas un revirement à 180 degrés, c'est simplement la reconnaissance qu'en période de crise, il faut bien utiliser les leviers de la politique économique, et quand on peut le faire, on aurait quand même évidemment tort de s'en priver. Alors, je voudrais donc, au-delà de cette crise, en venir sur quelques remarques de long terme. La première remarque, c'est qu'avant la crise et en dépit de performances économiques qui pouvaient être jugées encourageantes depuis le début des années 2000, la plupart des pays d'Afrique étaient en retard structurel. Je vais vous montrer quelques graphiques qui sont très frappants en longue période, qui montrent bien ce décrochement de l'Afrique en très longue période. Et donc, on ne peut pas se satisfaire ni des effets de la crise, bien sûr, ni de la croissance encourageante depuis le début de l'année 2000. Il n'y a pas eu de rattrapage du revenu par habitant depuis le début des années 60. C'est quand même très, très marquant. Il y a un rapport entre l'épargne et l'investissement et surtout un niveau d'investissement qui est très défavorable. Il y a un problème d'industrialisation, avec une question immédiatement derrière, c'est est-ce que l'industrialisation est un point de passage obligé ou pas? Et c'est une question évidemment là aussi sur laquelle on a peu d'éclairage aujourd'hui complètement convaincant. Et puis, il y a peu d'histoire à succès. Il y a une commission qui s'est réunie sous la présidence du prix Nobel Michael Spence en 2007, en 2006, 2007 et qui a rendu son rapport en 2008. Et dans cette commission, le seul pays africain qui a été classé dans les pays à succès était le Botswana. Les pays à succès étant ceux qui avaient pendant suffisamment longtemps un taux de croissance supérieur à 7%. Il y en avait assez peu dans le monde, c'était je crois 13 si j'ai bonne mémoire, là-dessus il y en avait un qui était un pays africain, et donc ça montre bien que ce n'est pas un continent sur lequel on a vu beaucoup d'histoires à succès en longue période. Alors voici les graphiques qui sont vraiment très éloquents. Vous avez sur ce graphique l'évolution du revenu par habitant dans différentes régions du monde. En bleu turquoise, tout en bas, c'est l'Afrique, depuis le début des années 60. Le niveau 100, c'est le niveau des années 60, donc on mesure sur ce graphique la différence par rapport aux années 60. Vous voyez en jaune orangé, c'est l'Asie de l'Est, en rouge, c'est l'Asie du Sud, en noir, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et puis en vert pâle, c'est l'Amérique latine. Et vous voyez là très clairement, ce graphique est très très éloquent sur la stagnation relative du continent africain en termes de revenus par habitant. C'est un petit peu la même chose, mais mesuré en pourcentage du revenu de nos propres pays, les pays industrialisés de l'OCDE. Et vous voyez là aussi que le revenu par habitant en Afrique ne s'est pas rapproché, il s'est plutôt éloigné. Vous voyez que la courbe turquoise descend. Autrement dit, le revenu en moyenne de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui représente un pourcentage moindre du revenu des pays de l'OCDE que ce n'était le cas en 1960. Les autres pays ont une convergence plus ou moins marquée, très faible à vrai dire, sauf peut-être pour l'Asie de l'Est, vous voyez que le chemin reste encore important à parcourir, si on se donne comme objectif le rattrapage du revenu par habitant. En tout cas, ce que ce graphique semble suggérer, c'est que ce rattrapage ne se fait pas de façon spontanée, naturelle, automatique et autonome. Je passe là-dessus parce que je n'ai pas le temps. Un mot sur l'épargne et l'investissement en Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne, c'est le petit cadran en bas à gauche. En haut à gauche, vous avez l'Amérique latine et les Caraïbes. En haut à droite, l'Asie du Sud. En bas à droite, l'Asie de l'Est et le Pacifique. Et vous voyez que un petit peu partout, notamment bien sûr en Asie de l'Est, on a un taux d'épargne important qui finance un investissement important. Eh bien, ces niveaux sont beaucoup moins importants en Afrique subsaharienne et avec un besoin de financement externe qui est révélé par le fait que non seulement le taux d'investissement à 20% du PIB est inférieur à ce qu'il faudrait qu'il soit, probablement, pour ancrer une croissance durable et forte, mais en outre, l'épargne interne est insuffisante pour financer ce besoin d'investissement, d'où le besoin de financement externe. Alors, l'Afrique en désindustrialisation, c'était l'un des points que je mentionnais également. Vous avez sur ce graphique la part des biens manufacturés dans le produit intérieur brut des différentes régions du monde. Et là encore, vous voyez que l'Afrique subsaharienne est très à la traîne avec un taux de production manufacturière qui est de l'ordre de 15%. En Amérique latine, il est de 30%. En Asie de l'Est, il est de 30%. C'est la courbe bleue un petit peu flashy. Et la courbe bleue plus terne, c'est l'Amérique latine. Et là, on est à 17-18%. Donc là aussi, il y a un problème d'industrialisation. Est-ce que c'est une bonne question ou pas ? Je n'ai pas. Intuitivement, je pense qu'il y a besoin d'une diversification des économies africaines. Il y a besoin d'encourager cette diversification, de comprendre pourquoi elle ne s'est pas produite, de comprendre pourquoi il n'y a pas eu une croissance suffisamment forte de production manufacturière. Mais je crois que la question mérite d'être posée. Il ne faut pas sauter aux conclusions de façon trop immédiate. Alors, on invoque beaucoup de facteurs explicatifs pour ces problèmes structurels africains. On invoque les conditions sanitaires et sociales. Je crois qu'il y a un vrai sujet là d'aide au développement qui est important. Je suis gêné par la causalité à sens unique qui est souvent faite en disant il suffit qu'il y ait du capital humain, il suffit qu'il y ait des bonnes conditions de santé pour que les pays se développent. Je ne suis pas encore ça viendra peut-être, mais convaincu par l'antériorité et la causalité à sens unique. Je pense que le développement est un processus conjoint. En économie, on parlerait d'équilibre multiple. Il y a des situations dans lesquelles tout marche et se nourrit mutuellement. Et donc, on a un enrichissement qui facilite les conditions de santé, l'investissement en capital humain. Du coup, ça permet un enrichissement plus rapide, etc. Et puis, il y a d'autres situations dans lesquelles rien ne marche et où il ne suffit pas de créer des écoles. Il ne suffit pas de proposer de l'offre d'enseignement pour que derrière ça prenne et ça marche. Mais il y a un vrai sujet malgré tout, évidemment, de conditions sanitaires et sociales. Il y a un sujet de dotation en facteurs, que ce soit du capital humain ou du capital physique. Il y a beaucoup de capital naturel, on va y revenir. Il y a des contraintes géographiques, mais elles ne sont pas très explicatives. D'ailleurs, vous avez bien vu sur le tableau initial que le fait d'être enclavé ne semblait pas jouer en longue période, en tout cas depuis le début des années 2000. Et si on regardait avant, je pense que on verrait assez vite que ce n'est pas une explication satisfaisante de la situation des pays africains aujourd'hui, mais c'est évidemment une contrainte qu'il faut apprendre à contourner. Il y a une dynamique démographique extrêmement frappante. L'Afrique aujourd'hui a en gros 800 millions d'habitants. En 2040, les estimations vont de 1,8 à 2,5, quelque chose comme ça. Elles sont révisées régulièrement. Donc on a en fait une région du monde, la seule région du monde, dans laquelle la transition démographique est à peine commencée, dans laquelle la fécondité est encore extrêmement élevée. Et il est évident que ça doit être un facteur majeur de réflexion prospective sur l'Afrique. Évidemment, on peut avoir tendance à dire la population, c'est un facteur d'enrichissement et de croissance. Sauf que, en termes dynamiques, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Là aussi, il y a encore des causalités qui sont vraiment croisées. Et pour que la population soit un facteur de croissance, il faut derrière que le reste suive. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui une vraie problématique africaine. Cette problématique se double d'un taux d'urbanisation extrêmement rapide qui pose des problèmes majeurs parce que les villes croissent beaucoup plus vite que la capacité des Africains et de l'aide internationale à fournir les services essentiels dans ces villes. C'est quelque chose qui est très frappant lorsqu'on visite les villes, lorsqu'on essaye de faire sortir les hommes et les femmes des bidonvilles. On y arrive, mais ils se remplissent immédiatement et plus vite que le taux de sortie auquel on est capable de contribuer. Et enfin, comme vous le savez, il y a aussi en Afrique des problèmes de gouvernance et d'institutions politiques. Et là encore, la causalité entre la mauvaise gouvernance et la croissance suppose d'une part que l'on sache définir la mauvaise gouvernance et d'autre part qu'on puisse analyser de façon convaincante cette causalité. Pour l'instant, c'est loin d'être convaincant. Et là encore, je crois beaucoup plus à la causalité circulaire sur le fait que les institutions se construisent avec la croissance. Et d'ailleurs, c'est à partir du moment où on a de la croissance et des richesses qu'on a des incitations fortes à créer les institutions pour protéger ces richesses. Donc il y a quelque chose qui est évolutif et qu'on a du mal à prendre en compte encore aujourd'hui dans différentes approches. Je voudrais insister sur deux choses pour terminer, parce que j'ai l'impression que je suis un peu trop long, mais Frédéric ne m'a pas encore coupé. C'est d'une part le développement durable, et d'autre part, le rôle de l'aide au développement. Alors pourquoi le développement durable ? Bien parce qu'en fait, le capital naturel est une des dotations majeures des pays pauvres, notamment en Afrique subsaharienne. Le capital naturel, la terre notamment, la biodiversité. Or, probablement pour des raisons qui sont centrées sur nos propres expériences d'industrialisation occidentale, on a perdu l'habitude, c'est en train de revenir à grande vitesse, on a perdu l'habitude de comprendre le rôle du capital naturel et de le valoriser et de l'inclure dans les modèles. Pour une raison assez simple, c'est que ce n'était pas perçu comme étant une contrainte marquante dans notre propre processus de développement jusqu'à présent. Dans les pays africains, ça devrait être placé au cœur du développement. Si vous prenez un pauvre africain, il a une très grande probabilité d'être agriculteur. Et si vous regardez quels sont les facteurs avec lesquels il peut se développer, il y a sa compétence d'agriculteur, et cette compétence est complémentaire de l'accès à son lopin de terre. Si donc vous avez de l'érosion, si la fertilité des sols diminue, bien évidemment, cet agriculteur va vivre moins bien et va perdre son propre capital humain, qui est sa compétence d'agriculteur. Donc il y a un enjeu tout à fait majeur qui est extrêmement simple à comprendre, sauf que ça a rarement été placé au cœur des processus de développement. Même chose pour la biodiversité. Nous avons, nous, une petite étude amusante à l'Agence française de développement que nous avons faite quelques années, qui montre que protéger le lémurien à Madagascar permet d'accroître la production de riz. Ça va quand même chercher assez loin. Oui, sauf que le lémurien, que vous connaissez probablement, j'espère, sinon pour précipitez-vous pour aller voir ce magnifique animal, il ne vit qu'à Madagascar. C'est un animal fragile. Si on veut le protéger, il faut protéger les bassins versants, et en particulier les forêts qui sont au sommet des bassins versants, qui est l'habitat naturel du lémurien. Et si vous protégez la forêt, vous améliorez la qualité de tout le système d'irrigation en aval. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ces relations qui sont très simples, aujourd'hui, sont insuffisamment documentées, ne sont pas valorisées dans les approches économiques, et donc on a énormément d'apprentissage à faire sur la relation entre écosystèmes et trajectoire de développement des pays pauvres. Un autre exemple que je vous donnerai, qui montre, la fécondité de ce type d'approche, nous participons nous-mêmes à un fonds international dont l'esprit est de financer des organisations non gouvernementales locales dans la protection de la biodiversité. Et donc ça ne marche que si ces organisations, ces ONG locales, perçoivent que c'est dans leur intérêt de le faire et que ça contribue à améliorer leur niveau de vie. Et tout ça dans ce qu'on appelle les hotspots de la biodiversité, donc les points de la planète où elle est à la fois abondante et très menacée. Eh bien, ce programme marche remarquablement bien, donc il y a une demande et une compréhension locale très encourageante là-dessus. Donc le développement durable est quelque chose de très fondamental pour comprendre les potentiels de développement des pays pauvres, ce qui m'amène à parler un petit peu de l'aide au développement pour terminer. Je crois que cette aide a plusieurs rôles. D'abord, elle peut faire le lien entre la conjoncture économique et les déficiences structurelles à combler. Autrement dit, lorsque nous intervenons aujourd'hui avec un rôle que nous espérons contracyclique, en accroissant, nous en tout cas à l'AFD, les flux que nous destinons à l'Afrique, mais qui ne sont pas nécessairement des flux de dons, ça peut être aussi des flux de prêts, mais bien évidemment nous ciblons avec nos partenaires l'utilisation de ces ressources dans des domaines dans lesquels nous espérons contribuer à lever certains obstacles de croissance à long terme, qu'ils soient dans le domaine social, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'agriculture, ou dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'adaptation au réchauffement climatique, de la protection de la biodiversité, etc. Et il y a de quoi faire. L'aide permet aussi de mieux concilier le processus de croissance avec la réduction de la pauvreté. Ce n'est pas automatique. Vous avez des pays qui croissent très vite, mais dans lesquels cette croissance n'est pas répartie, donc les pauvres n'en bénéficient pas. Ce qui est aussi un problème pour la croissance à long terme et la durabilité de cette croissance, puisque quand un pauvre ne participe pas à la croissance, bien entendu, c'est un facteur de pauvreté, mais c'est aussi une limitation au potentiel de croissance parce qu'il y a moins de capital humain, de personnes qui participent au processus de croissance et il y a moins de construction de capital humain. Et enfin, l'aide peut avoir un effet de levier, nous le vérifions tous les jours. Ce que nous disent nos partenaires, c'est que le soutien qu'on apporte, le partenariat que l'on construit, la construction de capacités, comme on dit dans le jargon, est plus importante même que le flux des ressources. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter les ressources, mais ça veut bien dire que l'aide au développement, c'est autre chose que de l'apport de ressources. Ça suppose de travailler beaucoup sur les modalités, et tout le débat sur l'efficacité de l'aide est un débat sur les modalités d'exercice de l'aide, le choix de ce que l'on fait en apportant les ressources et les instruments utilisés pour apporter ces ressources. Alors il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu vous dire. Je termine, mais on reviendra dans le débat probablement, juste cette photo que j'aime bien, qui est une, pour vous montrer que finalement le développement et l'aide au développement c'est fait de petites choses. On a toujours tendance à vouloir avoir une vision macroéconomique et à mesurer un effet moyen global. Ce que l'on voit quand on va sur le terrain, c'est des succès microéconomiques localisés. Alors ça montre bien d'ailleurs qu'il y a un problème pour passer du succès microéconomique à la croissance de long terme. Mais ça, ce n'est pas seulement une question d'aide au développement, ça va bien au-delà, il y a bien d'autres facteurs. Alors, sur cette photo, vous avez deux modes de culture. La culture par labour, et c'est ce que vous voyez ici, où il y a des ornières dans le sol à cause de l'érosion, disparition de l'eau, le sol est sec, ne retient plus l'eau, etc. Et juste à côté, c'est une photo où on peut faire la même en Tunisie, d'ailleurs, dans les paysages en collines semi-arides. L'autre parcelle est cultivée en agroécologie, sans labour, en semi-direct, au-dessus des résidus des récoltes anciennes. Et du coup, le fait de laisser les récoltes en place permet de retisser la couche superficielle du sol. La biodiversité s'y accroît. On a des recherches en ce moment qui montrent que ça marche. Et vous voyez que le sol se tient mieux, retient mieux l'eau, donc dans des régions semi-arides c'est extrêmement, ou arides c'est très important, et on a aussi des expériences qui montrent que les rendements, notamment le riz à Madagascar, sont supérieurs. Voilà, je vous remercie.
Merci. Vous avez commencé à répondre sur l'aide, mais je voulais vous faire réagir sur un livre qui vient de sortir, d'une dame qui s'appelle Denise Amoyo, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une Africaine, une Zambienne, qui est passée par la Banque mondiale, qui travaille maintenant chez Goldman Sachs, qui vient d'être considérée comme une des femmes les plus influentes de la planète, je crois, d'après le magazine Time. Son livre s'appelle « L'aide fatale » et je vous lis ce qu'elle dit dans l'introduction, donc je vais vous demander de réagir. « Les 1 000 milliards de dollars et plus dépensés en assistance au développement au cours des décennies successives ont-ils amélioré le sort des peuples africains ? Non. En réalité, partout sur la planète, les bénéficiaires de cette aide ont vu leurs conditions empirer, et même considérablement. L'aide a rendu plus pauvres les pauvres et a ralenti la croissance. » Trois lignes après, elle dit « L'aide a été et continue d'être, pour la plus grande partie du monde en développement, un désastre total sur le plan politique, économique et humanitaire. » Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
On a là une femme zambienne, jeune, diplômée, elle a un doctorat d'économie d'Oxford, elle a travaillé à la Banque mondiale, elle est chez Goldman Sachs. Donc on se dit, un livre comme ça devrait nous apprendre plein de choses et nous faire réfléchir. Eh bien, ce livre est extrêmement décevant. Et je pèse mes mots, et je vais vous donner des exemples. Alors, c'est un livre qui défend trois thèses. Et a priori, les thèses pourraient être défendues, à condition qu'il y ait évidemment les démonstrations derrière. La première thèse, c'est que l'aide n'a pas fonctionné, puisqu'elle n'a pas permis de sortir les Africains de la pauvreté. La deuxième thèse, c'est que non seulement elle n'a pas fonctionné, mais elle est coupable, c'est-à-dire qu'elle a renforcé le problème. Et la troisième thèse, c'est qu'il suffirait pour les pays africains de se financer auprès du marché pour résoudre leurs problèmes. Alors, sur la première thèse, l'aide n'a pas fonctionné. Je voudrais attirer votre attention sur deux points. Le premier point, c'est la pauvreté scientifique inattendue, vu le profil de l'auteur, dans ce livre. Et je vous donne deux exemples. Le premier, c'est de dire « l'Afrique a reçu des milliards de dollars, elle ne s'est pas développée, donc l'aide ne marche pas ». Vous êtes ici dans des journées d'économie, l'une des bases de l'enseignement d'économie, mais le plus tôt possible, c'est d'apprendre quand même la différence entre corrélation et causalité. Il y a en effet corrélation, de même qu'il y a corrélation entre les politiques d'allocation chômage et le fait qu'il y a encore des chômeurs. Moi, j'en déduis que la politique d'allocation chômage ne marche pas, donc dépêchons-nous de l'arrêter. On pourrait dire pareil, il y a une politique de santé, mais il y a encore des malades, figurez-vous. Donc il faut arrêter. Et puis, quelques pages plus loin, Damizan Moyo nous dit une chose merveilleuse, c'est le Botswana. Le Botswana s'est développé beaucoup plus rapidement que les autres. Je l'ai mentionné comme histoire de succès tout à l'heure. Et il a reçu beaucoup d'aide. Mais ce n'est pas à cause de l'aide qui s'est développée, c'est parce qu'il a choisi la libéralisation et l'économie de marché. Alors, il faut qu'on croie Madame Moyo. Tout ça est d'ailleurs possible. Simplement, c'est vraiment pas démontré, c'est affirmé. Et c'est affirmé d'une façon qui devrait faire sursauter tout étudiant de première année d'économie. Ensuite, sur l'argument « l'aide est coupable parce qu'il y a de la corruption », mais l'aide, c'est un pourcentage relativement faible, même dans les pays qui sont les plus dépendants, où ce pourcentage est quand même significatif, mais ça reste un pourcentage relativement faible dans le bilan financier global d'un pays, par rapport à l'épargne nationale, par rapport aux autres flux. Et donc il y a bien d'autres sources de gouvernance. Et quand vous regardez la façon dont une institution comme la mienne, l'AFD, finance les différents projets, on ne paye que sur facture, on vérifie tout. Alors évidemment, l'argent est fongible, donc ce qu'on utilise pour financer quelque chose libère des ressources pour d'autres usages. Mais c'est tellement contrôlé que ce n'est pas par l'aide que passent les incitations à la corruption. Attendez, je termine. Oui, mais je suis exprès provocateur, parce que ce livre mérite qu'on y réponde par la provocation. Et le dernier point, c'est il suffit que les pays en développement aient accès aux marchés mondiaux. Alors, là aussi, les économistes parmi nous savent que les marchés fonctionnent vraiment très 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 bien. D'ailleurs, on vient de le voir, on vient d'en avoir un exemple tout à fait convaincant avec la crise financière qui vient de se produire. Mais tout en fonctionnant très 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 bien, ils ne sont pas accessibles à tout le monde, et en particulier aux pays pauvres. Alors, Damizan Moyo le reconnaît, elle nous dit, mais il suffit d'avoir un discours qui va attirer les investisseurs étrangers et de mettre en place un climat d'investissement favorable, etc. Mais que croit-elle donc que nous cherchons à faire avec l'aide au développement ? C'est bien aussi d'améliorer les conditions de l'investissement privé, le climat de l'investissement, la gouvernance locale, etc. Moi, je fais partie de ceux qui croient que c'est un processus qui a beaucoup de valeur et que ce n'est pas parce que les climats sont difficiles qu'il faut perdre de vue le fait qu'il est possible d'aider à améliorer ces climats, à améliorer la gouvernance. Donc voilà, vous avez compris que je n'en pense pas beaucoup de bien.
Merci.
Merci beaucoup. Avant de vous donner la parole, je vais d'abord donner la parole pendant une vingtaine de minutes à Philippe Martin, qui lui va nous parler du commerce avec l'Afrique. Mais rassurez-vous, si j'ai lancé le débat, ce n'est pas pour l'interrompre immédiatement.
Moi non plus.
Absolument. Philippe Martin.